Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec le physicien Hubert Krivine qui vient de publier « On nous aurait menti pour analyser ce phénomène des fake news ». Vous partez de la rumeur aux fake news. Bonjour Hubert Krivine.
Bonjour.
Vous êtes physicien, vous n'êtes pas... Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce phénomène des fake news? Vous dites dans l'introduction du livre... Toute cette polémique, notamment au moment des vaccins, de l'affaire de la Covid-19, qui vous a un peu influencé et qui vous a poussé à travailler là-dessus.
Oui, bah écoutez, c'est pas très original, hein. Les fake news, on en parle partout maintenant, hein. Donc je crois que c'est pas mal de mettre en évidence un point de vue, de physicien là-dessus, qui est un point de vue biaisé, évidemment, mais peut-être ça peut apporter quelque chose.
Qu'est-ce qu'une fake news? Vous commencez d'ailleurs le livre à analyser cela, vous prenez plusieurs hypothèses. Là, il y a la fake news, la fausse information que l'on donne volontairement pour tromper des personnes. Mais vous dites qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, en toute bonne foi, vont vers des mauvais chemins de l'info.
Ben oui, enfin, c'est-à-dire on ne peut pas caractériser la fake news seulement par la volonté des gens qui les émettent. Effectivement, si vous voulez... La définition que je donne très très générale des fake news, qui est la propagation sur une échelle de masse d'informations fausses, c'est une définition peut-être trop générale, parce que dedans, évidemment, elle inclut par exemple la croyance au mythe, y compris au mythe religieux. Ève, Adam, le monde créé il y a 4000 ans, etc. etc. C'est des informations fausses. Produites sur une échelle de masse. Il y a des milliards d'individus, je dis bien des milliards d'individus, qui croient à ces choses-là. Ici, nous sommes un peu dans une bulle en France. Minorité simplement des gens croient à ça, mais si vous vous mettez au niveau mondial, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a la croyance... ça peut être sans importance, mais dans certains cas, ça peut être très important. Si vous croyez que le monde a été créé, enfin, les êtres vivants viennent d'Adam et Ève, bon, sauf pour l'enseignement, c'est pas dramatique. Mais si vous interdisez aux femmes l'avortement ou la contraception, ça peut être dramatique pour des millions de femmes. Ou si vous expliquez que, voilà une fake news, que Israël, la Palestine appartient aux Juifs parce que Dieu en a décidé ainsi, ça a des conséquences absolument dramatiques. Bon, alors, voilà. Bon, disons.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dès le départ, hein, Hubert Krivine, ne nous prenez pas en traître. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que l'intérêt que l'on peut avoir pour une information ou pour combattre ce que l'on croit être peut-être une fausse information dépend aussi de ses opinions politiques.
Oui, enfin...
Ou de son environnement culturel.
Non, mais il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses, indépendamment de l'organisation politique. Hein. Moi, je crois naïvement à ça. Je ne crois pas que l'humanité descende d'Ève et Adam. C'est faux, tout simplement. Bon, voilà, indépendamment des opinions politiques.
Oui, donc ça veut dire que si vous vous retrouvez face à un prêtre, par exemple, face à un rabbin ou face à un imam, dès le départ, hein, vous serez en désaccord. Lui va vous accuser de fake news et vous allez l'accuser de fake news.
Non, c'est pas si simple que ça. Je crois qu'ils devront me dire qu'ils ont la foi. Et que la foi, ce n'est pas rationnel. On peut pas justifier rationnellement une série d'informations. La Bible dit par exemple que la terre est fixe et que le soleil tourne autour. Bon, c'est une question de foi. Prenez un autre exemple, plus simple. La transubstantiation. Le vin de messe se change en sang du Christ et que l'hostie se change en chair du Christ. Bon, c'est... Alors le pape a bien précisé, j'ai des références correspondantes si vous voulez, qu'il ne s'agit pas d'un symbole, mais qu'il s'agit d'une véritable transformation. Bon, voilà, c'est ça. Alors, il est un peu emmerdé, parce que maintenant, avec les atomes et tout, on sait que c'est absolument pas possible. Alors le pape nous dit que c'est un mystère. Bon, voilà, il y a des tas de choses que les hommes ne comprennent pas. Ça fait partie des choses que les hommes ne veulent pas comprendre. Bon, c'est un mystère. Comment on peut discuter avec ça? C'est un mystère. Bon, si tu tiens à y croire, tu y crois, mais c'est absolument pas rationnel. C'est pas démontrable rationnellement. Autre chose est de dire que, je sais pas moi, que, si vous voulez, qu'une série d'affirmations de la Bible sont simplement des images destinées à faire comprendre. Alors ça, c'est tout à fait, là, moi, j'ai rien à dire là-dessus, c'est tout à fait raisonnable. De même, si vous voulez, vous avez les fables de La Fontaine qui peuvent vous enseigner à se méfier des flatteurs. Mais on sait bien que le renard n'est pas un vrai renard, que le corbeau n'est pas un vrai corbeau. Tout ça, ce sont des images. Et ça, c'est tout à fait raisonnable, disons.
Oui, après, on peut vous expliquer que Nostradamus, par exemple, c'était des images. Chacun va interpréter les images à sa propre façon et va dire, vous voyez, Nostradamus avait raison.
Oui, pourquoi pas, si vous faites une affirmation. Si vous voulez, typiquement, Madame Tessier aussi faisait des prédictions de ce genre-là.
Mais François Mitterrand les croyait bien.
Je sais, mais c'est pas un bon point pour François Mitterrand. C'est ce qu'il appelait la force de l'esprit, si je me souviens bien. Bon, il y croyait, et puis le malheureux est mort d'un cancer mal soigné. Hein.
Alors, faut dire qu'il y en a pour tout, hein, parce que on a parlé de la religion, mais vous allez même jusqu'à dénoncer dans ces fake news, vous revenez sur, j'allais dire, cette affaire Lysenko, hein, qui est une histoire incroyable. Comment on dit du faux, mais parce que on est dans un régime communiste stalinien, il faut dire que c'est vrai.
Oui, bien sûr, on avait intérêt à dire que c'est vrai, bien entendu. Ben, si vous voulez, il y avait des énormes famines qui avaient eu lieu en Union soviétique. Il fallait absolument trouver un moyen de s'en sortir. Et l'idée était que Lysenko apportait une réponse. Bon, voilà, c'est comme ça quoi, que ça s'est fait. Oui, bien sûr. Lysenko, c'est une affaire énorme. Mais regardez, plus près de nous, est beaucoup moins dramatique. Là, parce que les milliers et les millions de morts en URSS, c'est une véritable réalité. Bon, le malheureux professeur Raoult n'a pas eu des millions de morts sur la conscience. C'est une affaire plutôt grotesque, disons, mais quand même, ça a impacté pas mal en France. Hein. Et ce que je souligne dans le bouquin, c'est ça qui est amusant, c'est qu'on a assisté là à la naissance embryonnaire, tout à fait embryonnaire, d'une nouvelle religion, avec ses prédicateurs, ses adorateurs, etc., etc. C'était l'ambiance qui régnait à l'IHU de Marseille, apparemment, était épouvantable. Mais encore une fois, je ne veux pas comparer ça à l'affaire Lysenko, évidemment, non. Et puis, dans quelques mois, plus personne n'y pensera, ça.
Mais justement, vous évoquez deux affaires qui prennent place importante dans votre livre, Hubert Krivine. C'est le climat et la Covid.
Oui. Si vous voulez, ce qui m'intéressait un peu là-dedans, c'est de montrer comment on peut passer de façon continue à une false news, c'est-à-dire une découverte fausse, disons-le sous cette forme, à une fake news. Et ça, c'est pas la même chose du tout. La science passe son temps à se tromper et à se corriger, évidemment. Donc la science regorge de false news, heureusement. Bon. Quand la false news se transforme en fake news, c'est très embêtant. Par exemple, ce que je souligne beaucoup, c'est l'affaire de la mémoire de l'eau. Bon, c'était une false news, mais qui a une certaine importance, puisque c'était là-dessus que les laboratoires Boiron ont pensé fonder leur légitimité. Bon, c'est quand même pas une petite affaire, l'homéopathie. Hein. Bon, voilà.
Mais justement, si par exemple on prend l'exemple du climat, vous-même, vous avez été enseignant, vous avez été chercheur en physique, etc. Est-ce que votre rôle n'est pas aussi de vous interroger, d'écouter des opinions contradictoires et qu'on peut comprendre des gens comme Claude Allais qui disent non, l'homme n'est pas responsable, d'autres qui vont lui expliquer que l'homme est responsable, et c'est à chacun, en toute responsabilité, de se faire son opinion.
Oui, ça
vous acceptez
pas
ça ou non?
Je suis pas si sûr de ça. Tout à chacun de faire son opinion dans les domaines que vous connaissez pas, c'est très difficile de se faire une... Le climat, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué, les éléments qui jouent sur le climat. Il y a des phénomènes de chaos. Enfin bon, Et je crois qu'on est obligé, là, en un certain sens, d'accepter les arguments d'autorité, ce que je dis dans le bouquin, c'est-à-dire de faire confiance à une série de scientifiques bien, bien documentés. Là-dessus, moi, mon opinion sur le climat, c'est que je fais confiance au GIEC. Hein. Mais je ne suis pas capable de vous redonner toutes les démonstrations du GIEC qui sont très complexes. Hein. Donc, il y a un moment, une histoire de vraisemblance, je suis d'accord avec vous, mais l'opinion d'Allègre, elle est bien, bien seule, bien seule. Et puis il a dit des choses qui sont pas sérieuses du tout, ça c'est très clair. Il a dit par exemple, comment peut-on espérer prévoir ce qui va se passer dans des dizaines et dizaines d'années quand on n'est pas capable de prévoir ce qui se passera dans 10 jours avec la météorologie? Ça c'est une faute énorme de logique, parce que la météorologie n'a rien à voir avec la climatologie, rien. La climatologie vous dit que...
D'ailleurs, beaucoup de climato-sceptiques disent que le GIEC fait de la météorologie et pas du climat. Donc parfois, ils disent l'inverse.
Mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est absolument pas vrai. Si vous voulez, la façon la plus bête de vous dire ça, c'est je prévois que l'hiver il fera froid et que l'été il fera chaud. C'est pas de la météorologie, ça, c'est de la climatologie, parce que l'inclination de l'axe de la Terre, etc., etc., va jouer là-dessus. Bon, alors maintenant on n'a pas une telle précision pour le climat, mais bon, voilà quoi. C'est, si vous voulez. Dans tous les phénomènes, on peut toujours trouver quelques hurluberlus isolés qui croient vraiment à ce qu'ils racontent, mais c'est pas une démonstration, ça. Si vous voulez, l'écrasante majorité de la communauté scientifique n'est pas climato-sceptique. Bon, c'est quand même un argument fort, ça, non ?
Certains vous répondent parce qu'ils sont tenus par leur carrière, par les avancements, par ceci.
Oui,
eh, vous aurez toujours quelqu'un qui va vous avancer des arguments, Hubert Kriegel.
Je sais bien. Enfin, maintenant, je vois mal comment, quels sont les intérêts économiques derrière. Hein.
Alors,
je le vois beaucoup plus sur le tabac. Il y a eu, par exemple, sur le tabac, des polémiques disant que le tabac n'était pas si dangereux que ça. Là, je vois bien les intérêts de Philippe Maurice derrière ça. Mais sur la climatologie, je vois plus difficilement. Hein.
On n'avait jamais entendu personne dire que le tabac était bon pour la santé. On avait dit...
Non, on a dit qu'on a beaucoup... Ah, ça, je pourrais donner la référence. On a dit que c'était très exagéré, les dangers du tabac.
Ça, c'est vrai, oui. Des générations s'en souviennent encore de ces campagnes, on disait ça, dans les grands médias. Hein, sur
oui, je sais bien,
la radio. Alors... On veut lutter contre les fake news. On va revenir au Covid, par exemple, à l'affaire de la crise sanitaire. Est-ce que le fait d'avoir une opacité, couverture par le secret militaire, ça n'a pas renforcé, ça n'a pas été une erreur, parce que ça a renforcé finalement le sentiment complotiste ?
À propos de la Covid, on n'a jamais évoqué le secret militaire sur la Covid, si.
Le secret des réunions défense, voilà.
Oui, ça, je crois que c'est marginal. C'était grotesque, évidemment, d'appeler ça secret défense. Et ça peut effectivement susciter un peu de méfiance, mais enfin, je ne crois pas que c'était décisif, hein, ça, je ne crois pas, non.
La grande partie de votre livre traite de ce phénomène de la fake news et finalement, vous, comme si vous étiez en train de faire, vous êtes en train de disséquer la fake news. Il y a tellement de choses, c'est tellement complexe sur le phénomène de confiance, de vraie information, d'éléments de vrai mélangés au faux, de faux mélangés au vrai, qu'on s'aperçoit que finalement... Il sera toujours très difficile d'abord de combattre les fake news. Je vous rappelle que c'est depuis le début de l'humanité, depuis que l'homme peut parler et échanger, qu'il y a eu des fake news. Mais on s'aperçoit aussi qu'on peut jamais classer un propos forcément dans le camp du bien ou du mal, parce qu'il y aura toujours un moment de vrai, où il y aura toujours dans 80% de vrai et 20% de faux.
Voilà, oui.
Moi, c'est ce qui ressort de votre livre.
Oui, si vous voulez, c'est pour ça que je donne deux citations qui me paraissent très bonnes. Une de Victor Serge qui dit, en parlant des crimes staliniens, dans leurs mensonges, il y a des vérités. C'est très bien dit, ça. Dans leurs mensonges, il y a des vérités. Et aussi, là, Paul Valéry qui dit que le mélange de vrai et de faux est infiniment plus toxique que le faux pur. C'est très joli, ça. Il savait bien ça. Donc, effectivement, c'est un combat très difficile. Je crois qu'un élément sur lequel j'insiste beaucoup pour combattre les fake news, c'est outre la nécessité d'avoir une éducation scientifique meilleure de l'ensemble de la société, qu'on peut toujours dire, mais ça c'est un vœu un peu pieux, je crois que c'est très important de reconnaître dans les fake news qu'il y a de vrai là-dedans. Une des forces de Raoult, c'est évidemment de dire, moi j'ai attiré l'attention plutôt que les autres, ce qui n'est pas tout à fait vrai, entre parenthèses, parce qu'au début, il a complètement minimisé l'affaire, mais enfin ensuite, il s'est excité vraiment là-dessus, il a fait des consultations de masse, il a distribué des masques à tout le monde, etc., etc. Bon, et il a dit en plus que les labos pharmaceutiques étaient davantage intéressés au fric qu'à soigner les gens, tout ça, c'est des éléments vrais qu'il faut prendre en considération si on veut convaincre, hein.
Mais justement, quand on voit, est-ce que les fake news se déplacent en fonction de l'actualité ? Il y a des thèmes trop, d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, une époque, il y a eu beaucoup de débats très contradictoires où tout le monde disait que c'était faux, d'autres c'était vrai, peu importe, on n'arrivait jamais sur les finances, sur la fiscalité, sur le poids de l'État. On a un peu moins cela. Ensuite, il y a toute une. Maintenant, en ce moment, par exemple, il y a eu la crise sanitaire, donc les vaccins, maintenant on les entend moins. Le climat, il y a toujours, et il y a l'immigration aussi. L'immigration, là, c'est un peu. Voilà. Le poids de l'immigration, vous voyez bien en ce moment, la délinquance. Comment faire son information? Comment trier tout cela?
Une réponse universelle, ce serait merveilleux. Hein. Donc, ce que je vous dis, je donne une série de critères dans le bouquin pour essayer de distinguer une vérité scientifique d'une vérité qui n'est pas. Enfin, une vérité qui n'est pas. C'est une drôle d'expression. Mais à chaque fois que vous prenez des critères comme ça, vous vous apercevez qu'ils sont discutables.
Hein. On peut tomber dans le piège aussi. Hein, aussi.
Mais il n'y a aucune... Il n'y a aucun argument dans ce sens-là qui soit une condition nécessaire et suffisante de scientificité d'une affirmation. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. C'est pour ça que je conclue, je donne une énumération à chaque fois en disant on peut dire ça, mais ça suffit pas. Je crois que la condition essentielle, c'est que l'information que vous donnez, ou l'observation, ou la théorie que vous donnez, s'intègre dans la masse des autres connaissances, qu'elle affirme ou qu'elle renforce. Ça, je crois que c'est un critère très très fort. Et la plupart des fake news ne rentrent pas dans cette catégorie. Ce sont des points isolés dans l'ensemble des connaissances. Si vous voulez, la force d'une information scientifique vient de toutes les autres informations scientifiques. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est jamais un machin comme ça, isolé. Si elle ne s'intègre pas dans le reste des connaissances, encore une fois, pour les renforcer ou les limiter, alors c'est très discutable. Et ça, c'est vrai de toutes les affirmations scientifiques ou prétendues telles.
Que pensez-vous des réseaux sociaux?
Mon Dieu, j'en pense. C'est un élément extrêmement rapide et efficace apparemment de distribution de fake news, mais probablement pas seulement aussi. C'est comme l'imprimerie, ça a dispensé sur une échelle de masse des fake news, mais aussi des vraies news. Hein. Donc c'est simplement un catalyseur de plein de choses.
Hein. L'imprimerie, on réfléchissait quand même avant d'écrire, parce qu'il fallait quand même utiliser du papier, ça prenait du temps. Donc il y avait quand même une réflexion. Et alors que les réseaux sociaux, on tape sur son clavier. Mais est-ce que l'effet pervers, c'est que celui qui reçoit le message, qui le lit, 5 à 7 secondes après, il l'a totalement oublié. Il y a des études qui le montrent aussi.
C'est
aussi.
Absolument, non, vous avez raison, c'est un peu d'une autre nature, ça exagère terriblement, bien sûr. Enfin, les fake news à l'imprimerie, il y en a eu pas mal. Hein.
Dernière question, si on parle dans les médias, souvent, quand quelqu'un affirme quelque chose, lorsqu'il y a un débat, on revient parfois sur l'origine idéologique de la personne. Vous n'êtes pas qualifié pour le dire parce que vous avez été ceci dans votre jeunesse, vous avez fait cela. Est-ce que l'origine, et cette question en plus elle vous concerne, cher Hubert Krivine, voilà, est-ce que l'origine de l'émetteur, l'origine sociale, politique, idéologique, est à prendre en compte ou il faut faire crédit finalement à toute personne, vous-même qui venez du milieu de l'ultra-gauche, hein, voilà, avec votre frère, etc. Vous étiez au Parti communiste une certaine époque. Ensuite, vous avez rejoint votre frère, Alain Krivine. Voilà. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce genre d'anathème, comment réagir face à cela?
Non, mais j'en parle explicitement dans le bouquin. C'est-à-dire, la source d'une information n'est pas suffisante. Elle peut éventuellement vous rendre suspicieux, méfiant, etc. Mais elle n'épuise pas la question, sûrement pas. Pendant tout un temps, par exemple, les Américains, l'impérialisme américain qui était animé des mauvaises intentions, disait qu'il y avait le goulag en Union soviétique. Les Russes, enfin les Soviétiques ont répondu à l'époque, mais vous avez vos nègres, vous n'êtes pas qualifiés pour nous dire ça, n'empêche que le goulag existait. Bon, voilà, c'est aussi simple, c'est malheureusement aussi simple que ça. Donc la source d'une information ne la caractérise pas. Elle peut faire réfléchir un petit peu, mais c'est tout. Il y avait la science prolétarienne contre la science bourgeoise, et puis après, à peu près en même temps, il y a eu la science arienne contre la science juive, etc., etc. Toute disqualification de la science à propos de l'origine de l'émetteur n'est pas bonne. Simplement, c'est un élément qui peut vous faire douter, mais c'est tout. Ça n'empêche pas. Il n'y a pas de science blanche et de science noire, j'y crois pas, ça. Il n'y a pas de science féminine et de science masculine. Par contre, si vous voulez, la science est faite par les scientifiques, mais les scientifiques ne font pas toujours de la science. Ça, c'est une autre paire de manches, évidemment.
C'est-à-dire qu'une personne qui pourrait dire, par exemple, je n'écoute jamais Éric Zemmour, dès que j'entends sa voix, je coupe parce que tout ce qu'il dit est faux, c'est une personne qui déjà peut se tromper. De la même manière qu'on pourrait dire, j'écoute jamais Mélenchon parce que dès qu'il ouvre la bouche, c'est faux, vous les mettez dans le même camp, ces deux personnes.
Si vous voulez, on ne doit pas raisonner comme ça, je suis d'accord. N'empêche que moi, personnellement, j'aime pas du tout Zemmour.
Oui, ça, j'avais compris.
Oui. Bon, je me méfie beaucoup de ce qu'il raconte, mais ça veut dire qu'il n'a pas dit que des choses fausses. D'ailleurs, quand il était plus jeune, hein, c'est vrai, c'est ça qui a fait sa force. Et entre parenthèses, il avait une façon, une façon irrespectueuse de considérer les choses qui n'étaient pas antipathiques, hein, au départ. Bon, voilà.
Merci, Hubert Krivine. Vous êtes physicien, vous avez été enseignant à l'université Pierre et Marie Curie, chercheur au laboratoire de physique théorique des modèles statistiques de l'université Paris-Sud, et vous publiez votre nouveau livre dans un secteur où, c'est vrai, où l'on ne vous attendait moins. Voilà. On nous aurait menti, aux éditions de Beck, de la rumeur aux fake news. Vous décortiquez ce phénomène des fake news et le livre est préfacé par Guillaume Lecointre, professeur du Muséum d'Histoire Naturelle. Merci, Hubert Krivine.
Voilà.